Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux frères. Ils étaient juifs, ils se sont convertis au catholicisme et ils sont devenus prêtres. Alors vous les connaissez peut-être pas, il s'agit de Théodore et Alphonse Ratisbonne. Ils sont présents sur un panneau à l'hôtel central. Voilà. Alors, je vais d'abord évoquer, avant de parler d'Alphonse, parce que pour Alphonse, il s'est passé, on va dire, quelque chose d'extraordinaire, et même ça a été déclaré comme miracle. Alors, je vais parler de son frère aîné, Théodore. Alors, Théodore, lui, il était plus âgé qu'Alphonse. Il naît en 1801. Et de très bonne heure, l'enfant manifeste un profond attrait pour le recueillement et la prière. Et lorsqu'il arrive au terme de ses études classiques, il opte pour le droit, mais en même temps qu'il prépare donc ses diplômes de droit, il accepte d'être chargé de la direction des écoles juives qu'on était parvenu à reconstituer à Strasbourg. Il faut dire qu'on est quand même au lendemain de la Révolution, où il y a eu, si je puis dire, beaucoup de dégâts. Voilà, alors cette école juive, c'était en vue de la régénération des juifs, de la classe populaire. Et Théodore se donne à cette œuvre avec un dévouement extraordinaire. Mais néanmoins, ses activités ne parviennent pas à le détourner d'une inquiétude qui s'est installée en lui et partout l'accompagne. Il a faim de Dieu, mais il ne sait où le rencontrer. Il disait « Je ne connaissais aucun homme, aucun livre qui pût m'instruire. J'aurais fui avec aversion quiconque m'aurait parlé du christianisme, que je regardais comme une idolâtrie. Et quant au judaïsme, j'en étais désabusé et la synagogue me paraissait une barrière entre Dieu et moi. » Il étudie la philosophie, mais son tourment n'est pas apaisé pour autant. Sa recherche reste longtemps solitaire et douloureuse, encouragée cependant de subits éclairs qui traversent ses ténèbres. Durant une nuit que je passais dans le jardin, après une longue contemplation des étoiles, je m'étonnais d'avoir pu supposer que tant de magnificence se fussent produites spontanément, et à la vue de ces innombrables armées qui se mouvaient sur ma tête, je compris qu'une puissance intelligente avait dû les former et présider à leur marche harmonieuse. Et dans ce moment plein d'angoisse, faisant appel au Dieu de mon enfance, je m'écriais dans toute l'amertume de mon âme, « Ô être mystérieux, Créateur, Seigneur, Adonai, si tu existes, aie pitié de ta créature, montre-moi le chemin qui conduit à la vérité et je te jure de lui consacrer ma vie. » Alors il y eut également, au cours de cet acheminement vers la foi, deux rencontres qui furent certainement providentielles. Une femme, Mademoiselle Humann, et celle d'un philosophe, Bautin. Mademoiselle Humann était une chrétienne d'une haute spiritualité. Elle s'était révélée dans la fondation et la direction d'écoles chrétiennes en Alsace. C'était une remarquable éducatrice. Le philosophe Louis Bautin, après sa conversion, inaugura chez elle des causeries de philosophie religieuse. Ratisbonne, bien entendu, s'empresse à ses leçons et il l'entend parler avec respect du judaïsme, exposer et démontrer que le Nouveau Testament ne contradit pas l'Ancien, mais le continue et le complète. Éclairer ce qu'il n'y a pas encore pour lui de trop obscur dans le mystère chrétien. Et la lumière se fait graduellement en lui. il se sent attiré par cette doctrine dont il découvre la cohérence et finit par adhérer pleinement à une foi qui correspond si bien à ses aspirations. Je croyais, disait-il désormais fortement, à la Sainte Trinité. Dieu est amour. Ce mot portait tout à la fois le feu dans mon âme et la lumière dans mon esprit. Il me semblait que j'y trouvais la clé de la science. J'entrevoyais dans l'amour éternel le mystère de la Trinité, le mystère de la création et tous les actes de la rédemption. Et dès ce moment-là, Théodore considère Jésus-Christ avec une grande tendresse. Le nom de Jésus-Christ sortit de ma bouche et de mon cœur comme un cri de détresse. Hors des discussions et controverses, je me mis donc à prier simplement avec mon cœur seul, sans aucun livre, sans formule humaine. Le nom de Jésus s'acclimata sur mes lèvres. Je le prononçai avec confiance. J'osais aussi invoquer la Vierge Sainte. Je ne pouvais pas séparer les noms de Jésus et Marie. Alors, avec des sentiments pareils, on comprend bien sûr que Théodore, rapidement, désire le baptême. Et ce fut Mademoiselle Humann qui l'y prépara avec l'autorisation spéciale de l'évêque de Strasbourg pour ménager les susceptibilités de la famille, qui lui conféra en secret, donc il est baptisé secrètement, le 14 avril 1827. Et au mois de septembre suivant, à Mayence, il sera suppléé au rite qui avait été omis, c'est-à-dire la communion et la confirmation. Alors, comment cette démarche finit-elle par être connue ? Ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que ce fut un drame dans la famille Ratisbonne et que Théodore dut s'éloigner de la maison et se résigner à voir les siens rompre désormais toute relation avec lui. Il est alors accueilli dans un petit groupe de disciples du philosophe Botin, à qui Mademoiselle Humann a offert un toit et parmi lesquels plusieurs désirent le sacerdoce. Botin deviendra prêtre, Théodore lui suivra de près et sera ordonné en 1827, soit 3 ans après son baptême. Les premières étapes furent le petit séminaire de Strasbourg, où il devient professeur, à la cathédrale où il est vicaire, bénévole, et au ministère plus direct des âmes. Il suit son maître Botin au collège de Juilly, lorsque celui-ci, tombé par réaction contre le rationalisme et dans l'excès contraire du fidéisme, devra abandonner son enseignement au séminaire de Strasbourg. Et enfin, Théodore viendra à Notre-Dame des Victoires, et c'est l'abbé Desgenettes qui l'appelle, et il devient le sous-directeur de l'archiconfrérie qui était naissante, et nous sommes là en 1840. Auparavant, il s'était affilié à l'archiconfrérie le 20 mai 1839. Alors maintenant, je vais parler du frère, du petit frère, Alphonse. Alors Alphonse, lui aussi, il est né à Strasbourg en 1814. Il commence ses études au collège royal, où je fis, écrira-t-il, plus de progrès dans la corruption que dans l'instruction de l'intelligence. Il part ensuite faire son droit à Paris, mais s'il s'intéressait et se dévouait activement à la société d'encouragement au travail en faveur des jeunes israélites fondés 15 ans plus tôt par son frère Théodore, ce n'était pas par esprit religieux, mais uniquement par pure humanité et par sentiment de fraternité avec sa race. Malgré son incroyance, il s'était indigné avec tous les siens lorsque son frère Théodore s'était converti au catholicisme et était devenu prêtre. Alphonse, jeune adulte, se fiance avec une de ses nièces, Flore, âgée seulement de 16 ans. Alors, vu le jeune âge de la fiancée, l'oncle Louis décida de surseoir à cette union et décida de faire voyager son neveu, Alphonse. Alors, il part de Strasbourg, ensuite il fait halte à Marseille et il s'embarque pour Naples. Et il va passer un mois à Naples pour tout voir et pour tout écrire. Il tient son journal où l'on trouve de violents et fréquents blasphèmes contre le catholicisme et les prêtres. Mais il ne veut pas prolonger son séjour à Naples. Il veut gagner la Sicile, puis Malte. Alors il retient sa place à bord d'un bateau, le Mongibello, mais le bateau, malheureusement, ne part pas. Il reste à quai. Et donc, Alphonse, las d'attendre, se rend au bureau des voyages, mais il se trompe de chemin et aboutit au bureau des diligences de Rome. Premier petit clin d'œil. Brusquement, il se décide et retient sa place. Dans sa pensée, il ne s'agit que d'une courte excursion et il compte bien être de retour à Naples pour pouvoir en repartir à une date qui s'est fixée définitivement le 20 janvier. Alors le voici arrivé à Rome. Il entreprend aussitôt avec curiosité sa visite. J'avais si peu de jours à donner à cette excursion improvisée que je me hâtais de dévorer en quelque sorte toutes ces ruines anciennes et modernes que la ville offre à l'avidité d'un touriste. Et un jour, au hasard de ses courses, il s'entend interpeller dans la rue et reconnaît avec plaisir Gustave de Bussière, un cher ami qui l'entraîne à dîner chez son père. Alors, les Bussière sont protestants, mais l'aîné des fils, qui s'appelle lui aussi Théodore, s'est converti au catholicisme et s'est très intimement lié avec l'abbé Ratisbonne. Mais Alphonse décide que son séjour a assez duré. Alors le 15 janvier, il va retenir sa place pour le 17, aux diligences de Naples. Il rend visite à Théodore de Bussière et l'échange entre les deux hommes paraît infructueux. Théodore Ratisbonne répète à l'assemblement qu'il est né juif et mourra juif. Mais soudain, comme inspiré, Bussière lui dit « Mais puisque vous professez des doctrines si libérales, puisque vous êtes un esprit si fort éclairé, auriez-vous le courage de vous soumettre à une épreuve bien innocente ? Quelle épreuve ? Ce serait de porter sur vous un objet que je vais vous donner. Voici, c'est une médaille de la Sainte Vierge. » Alors, il s'agit de la médaille que la Vierge, au cours des apparitions en 1830 à Catherine Labouré, avait demandé de faire frapper et de répandre. Sœur Catherine avait vu la Vierge tenant debout, les pieds posés sur un globe représentant le monde, les mains étendues d'où tombent les rayons qui symbolisent les grâces qu'elle ne cesse de semer sur nous. Et autour, encadrant l'image de la Vierge, ces mots en lettres d'or, « Ô Marie, conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et puis Sœur Catherine vit encore un second tableau, ce qui est le reversi, le monogramme de Marie, un M surmonté d'une croix, au-dessus deux cœurs, l'un entouré d'une couronne d'épines, celui de Jésus, l'autre transpercé d'un glaive, celui de sa mère. Et autour, en ovale, 12 étoiles. La Vierge avait demandé de faire frapper une médaille sur ce modèle et avait dit que toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Donc la diffusion de la médaille s'était accompagnée de tant de grâces, de guérisons, de conversions, de protections, que les fidèles n'avaient pas tardé à la nommer la médaille miraculeuse. Et c'était donc cette médaille que Théodore de Bussière présentait à Ratisbonne. Alors la proposition, je l'avoue, écrit-il, m'étonna par sa puérile singularité. Je ne m'attendais pas à cette chute. Mon premier mouvement était de rire en haussant les épaules. Mais la pensée me vint que cette scène fournirait un délicieux chapitre à mes impressions de voyage et je consentis à prendre la médaille comme une pièce à conviction que j'offrirais à ma fiancée. On me passe la médaille autour du cou et je m'écriai dans un éclat de rire « Ah, me voici catholique, apostolique et romain !» Mais M. de Bussière n'était toujours pas satisfait. « Maintenant, continue-t-il, il faut continuer l'épreuve et il faut la compléter. Il s'agit de réciter matin et soir le Memorare, c'est la prière de Saint Bernard. C'est une prière courte et efficace, adressée à la Vierge Marie. » Alors Ratisbonne répond « Oui, bien sûr, laissons là toutes ces sottises. » Mais Bussière insiste « Eh bien, soit, je vous promets de réciter ces prières. Si elle ne fait pas de bien, et moi, ne me fera-t-elle pas de mal ?» Et il se réjouissait à la pensée de verser à son dossier comme une preuve de l'effarante naïveté et superstition des catholiques. Donc, c'est une nouvelle pièce à jeter contre les catholiques. Mais cependant, le soir, après avoir fait ses malles pour partir le lendemain, il se mit à copier la prière. Le lendemain, 16 janvier, il fait signer son passeport et redit sans cesse la prière de Saint Bernard. Sous la pression de M. de Bussière, Alphonse reporte son départ. Le soir même, dînant avec M. de la Ferronnais, Bussière lui raconte son entreprise de conversion et lui recommande le jeune homme à ses prières. « Ayez confiance, lui répondit celui-ci. S'il dit le Memorare, vous le tenez. » Et M. de la Ferronnais meurt brutalement le lendemain. Et durant les deux journées qui suivent, Ratisbonne refait avec Bussière quelques visites d'églises et de monuments. Mais son opposition au catholicisme demeurait toujours aussi absolue. « Nous nous séparâmes, écrit le baron Théodore de Bussière, sans que je puisse emporter la plus faible espérance d'avoir le moins du monde ébranlé ses convictions. Mais, dans la nuit du 19 janvier, Alphonse se réveille en sursaut. « Je voyais fixe devant moi, écrit-il, une grande croix noire et sans Christ. Je fis des efforts pour chasser cette image, mais je ne pouvais l'éviter et je la retrouvais toujours devant moi, de quelque côté que je me tournasse. Je ne pourrais dire combien de temps dura cette lutte. Je me rendormis et le lendemain, à mon réveil, je n'y pensais plus. » Alors le lendemain, c'est le 20 janvier. Alors en début d'après-midi, Bussière se rend en voiture à l'église de Saint-André des Léfratés où doivent se célébrer les obsèques de M. de la Ferronnais, donc le lendemain. Alors, il faut régler avec le clergé quelques détails de la cérémonie. Et via Condanti, il rencontre Ratisbonne et il l'invite à monter, qui lui permette de s'arrêter quelques instants à l'église et ils poursuivront ensemble leur promenade. Les deux hommes pénètrent dans la nef, Bussière s'absente une dizaine de minutes et puis revient Alors laissons-le parler. En rentrant dans l'église, je n'aperçois pas d'abord Ratisbonne. Puis je le découvre bientôt agenouillé devant la chapelle de l'ange Saint-Michel. Je m'approche de lui, je le pousse 3 ou 4 fois avant qu'il s'aperçoive de ma présence. Et enfin, il tourne vers moi un visage baigné de larmes, joint les mains et me dit avec une expression impossible à rendre « Oh, comme ce monsieur a prié pour moi !» Alors il parlait de monsieur de la Ferronnay décédé. Alors j'étais moi-même stupéfait d'étonnement. Je sentais ce qu'on éprouve en présence d'un miracle. Je relève Ratisbonne, je le guide, je le porte pour ainsi dire hors de l'église et je lui demande ce qu'il a, où il veut aller. « Conduisez-moi où vous voudrez, s'écrie-t-il, après ce que j'ai vu, j'obéis. » Je le presse de s'expliquer. Il ne le peut pas. Son émotion est trop forte. Il tire de son sein la médaille miraculeuse qu'il couvre de baisers et de larmes. Je le ramène chez lui et malgré mes instances, je ne puis obtenir de lui que des exclamations entrecoupées de sanglots. Ah, que je suis heureux, que Dieu est bon, que ceux qui ne savent pas sont à plaindre. Enfin, il me demande s'il n'est pas fou. Mais non, s'écrie-t-il, je suis dans mon bon sens, je ne suis pas fou. Tout le monde sait bien que je ne suis pas fou. Alors, lorsque délirante émotion commence un petit peu à se calmer, Ratisbonne, avec un visage radieux, me serre dans ses bras, m'embrasse et me demande de le mener chez un confesseur et veut savoir quand il pourra recevoir le baptême sans lequel il ne saurait plus vivre. Il me déclare qu'il ne s'expliquera qu'après avoir reçu la permission d'un prêtre. Car ce que j'ai à dire, ajoute-t-il, je ne puis le dire qu'à genoux. Alors je le conduisais aussitôt au Jésus, près du père de Villefort, qui l'engage à s'expliquer. Alors Ratisbonne tire sa médaille, l'embrasse, nous la montre et s'écrie « Je l'ai vu ! Je l'ai vu !» Et son émotion le domine encore. Mais, bientôt plus calme, il peut s'exprimer. Voici ses propres paroles. « J'étais depuis un instant dans l'église, lorsque tout d'un coup, je me suis sentie saisie d'un trouble inexprimable. J'ai levé les yeux. Toute l'église avait disparu à mes regards. Une seule chapelle avait, pour ainsi dire, concentré toute la lumière et au milieu de ce rayonnement, apparut debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie telle qu'elle est sur cette médaille. Une force irrésistible m'a poussée vers elle. La Vierge m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Elle a semblé me dire « C'est bien ». Elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout compris. Et puis, les deux hommes allèrent ensuite remercier la Vierge à la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Et il se recueille sur le tombeau des apôtres, pris auprès du cercueil de Monsieur de la Ferronnay. Et Ratisbonne voulait passer la nuit à veiller près du cercueil. « C'est à ces prières, répétait-il, que je dois ma conversion. » Et pour se préparer au baptême, il se retire dans la résidence des Jésuites, où le père de Villefort se charge de son instruction. Cette instruction, elle fut assez rapide. La Sainte Vierge ne l'avait-elle pas commencé elle-même? S'expliquant davantage, il disait « Comment suis-je arrivé à cette connaissance de la foi catholique ? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'en entrant dans l'Église, j'ignorais tout et qu'en sortant, je voyais clair. Je crois rester dans le vrai en disant que je n'avais nulle science de la lettre, mais que j'entrevoyais le sens et l'esprit des dogmes. » Alors la nouvelle de la conversion d'Alphonse fut annoncée à Notre-Dame des Victoires le 30 janvier par son frère Théodore, donc, qui était sous-directeur de l'archiconfrérie. Cette nouvelle fut annoncée à l'office du soir. Et l'abbé Desgenêtre relata cette soirée dans les annales. Alors il écrit « Il nous serait impossible de rendre compte de l'impression que ce touchant récit fit sur toute l'assemblée. Quand l'abbé Ratisbonne, après avoir raconté les circonstances de cette merveilleuse conversion, dit « C'est Alphonse dont je vous parle et mon frère. » À ce moment-là, les cœurs se dilatèrent et un « ah » prolongé épancha ce que les cœurs ne pouvaient plus garder d'admiration et de joie. Que de larmes furent répandues et qu'elles étaient douces. Jusque-là, on avait admiré la divine miséricorde. On jouissait du retour de cet enfant à la maison de son père. Mais c'était la joie du chrétien. Mais à ces mots « c'est mon frère », toute l'assemblée partagea la joie de ce pieux ecclésiastique. Chacun était devenu son frère. Et sur la demande qui nous fut faite par plusieurs de nos confrères, au moment où nous descendions de la chaire, nous chantâmes un magnificat en action de grâce. Depuis un an déjà, la famille du jeune néophyte, donc Alphonse, était l'objet de nos vœux. Et 15 jours avant sa conversion, il avait été de nouveau spécialement recommandé par son frère aux prières publiques. Et voulant faire partager à tous nos confrères la sainte joie qui remplit nos cœurs, et ne voulant rien leur présenter que d'exact, nous avons prié Monsieur Marie Alphonse de nous donner lui-même la relation de sa conversion. Le lendemain, Ratisbonne fut baptisé et confirmé. Il s'affilia à l'archiconfrérie le 30 mars 1842 et le 12 avril, il écrivit au père Desgenêtre une lettre relatant sa conversion en lui disant « C'est à vous, monsieur le curé, à vous qui avez fondé l'archiconfrérie pour la conversion des pécheurs, c'est à vous que les pécheurs doivent rendre compte des grâces qu'ils ont obtenues. Si je ne devais vous raconter que le fait de ma conversion, un seul mot suffirait, le nom de Marie. » Voilà. Et donc, la conversion de, pour terminer, la conversion de Ratisbonne fut considérée officiellement par l'Église et le miracle de Ratisbonne est assimilé depuis 1894 avec la fête de la médaille miraculeuse le 27 novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté patiemment. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.